J'ai mis deux saisons dans le livre pour ne pas trop compliquer les choses pour les lecteurs et lectrices.
Printemps, été, automne, hiver.
Voilà, il y a l'été et l'hiver.
Un petit peu de printemps aussi quand même. Hein,
oui, bien sûr, mais il faut coller à la saison. Ça, c'est quand même la règle de base. On n'arrêtera pas de le répéter. Inutile de vous acheter des figues en mars. Voilà.
Des cerises en février.
Parce que, voilà, patientez, vous dégusterez mieux les choses.
Vous avez beaucoup voyagé dans votre vie, Perla Servan-Schreiber. Hein, vous avez fait beaucoup de voyages, au Japon notamment. Hein, vous les évoquez aussi dans ce livre. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette belle cuisine japonaise?
Alors, au Japon, je vais vous dire, parce que moi, je suis une fanatique de riz. Et c'est quand même un produit qui est magnifié dans chaque pays de manière différente. J'étais dans un restaurant avec mon mari, tout petit restaurant, absolument comme ils savent en faire, où on était seul, il y avait une table et puis
Une claustra.
Oui, c'est ça, un claustra. Et puis à la fin, alors évidemment, il y a la petite dame magnifique qui arrivait avec tous les petits plats inouïs. Et à la fin, arrive le chef, en blanc, mais nickel comme les chefs
comme
peuvent
vous
l'être. Comme les chefs peuvent l'être. Et sur une petite table, avec un poêlon à l'intérieur duquel il y avait un bol exceptionnel, il nous sert un riz dont le parfum m'habitera, j'espère, jusqu'à ma dernière heure et même au-delà. Et un parfum exceptionnel, et c'était le dessert.
C'était quoi?
On ne nous a pas servi du tout de riz pendant le repas, mais il est arrivé avec ça pour dire combien la majesté était là.
D'offrande.
Seule. C'est l'offrande
absolue.
Et le
riz était naturellement parfumé, ce n'est pas un parfum qui avait été ajouté.
Non, le riz était naturellement parfumé, il était nacré, il était mais sublime. Voilà, c'est une de mes plus grandes émotions.
Votre cuisine se nourrit de plusieurs influences aussi. Vous aimez bien mixer, c'est votre côté DJ un petit peu des fourneaux.
Oui, c'est ça, moi j'aime bien mixer, voilà, puis j'ajoute un petit grain personnel. Mais c'est vrai que je m'inspire évidemment de ce qui existe. Je ne peux rien inventer comme ça totalement. Moi,
oui,
personnellement, pas du tout.
Vous faites rencontrer plusieurs cultures.
Voilà, j'aime beaucoup ça. Et dans ce livre, il doit y avoir des plats de 11 pays différents.
Alors, c'est le cas du plat du jour que vous avez apporté pour nous, qui est un joli curry à l'indienne que vous avez fait. Alors, racontez-nous quels sont les ingrédients qui composent ce curry que les auditeurs pourront refaire ce week-end. Hein. Écoutez bien, chers auditeurs.
Absolument. Alors, ce curry est à base de fruits. Il y a de la banane, de la mangue et de la pomme granny.
J'allais vous dire, il y a une très belle acidité.
Oui, parce que c'est bien acidulé. Ouais.
Voilà. C'est bien relevé. Elle vient d'où, cette belle acidité, effectivement?
L'acidité vient un peu de la granny, mais d'un peu de citron vert à la fin. Il y a très peu de tomates, mais il y en a. Et puis tout ça mijote tout doucement, bien sûr, avec du curry et du gingembre. Je mélange du masalé et une pointe de cannelle. Évidemment, c'est encore la marocaine qui est là.
Qui revient et on le mange avec le nez d'abord.
Et on le mange, voilà. Ça, c'est quand même très agréable. Qu'est-ce que j'ai oublié? De la coriandre à la fin et un peu de lait de coco.
Et alors, ce n'est pas la saison de la tomate. Évidemment, on peut avoir un recours à des tomates concassées. Hein. Tomates concassées qu'on doit au grand Auguste Escoffier, d'ailleurs.
Ah oui.
Qui a eu la bonne idée de les mettre en boîte.
Tomates concassées, bien sûr. Tomates concassées. Et celui-ci, je l'ai fait à l'agneau. Mais non pas l'agneau comme en dés, vous voyez, ou en morceaux. Mais de l'agneau haché.
Ah, c'est pour ça qu'il y a une rondeur aussi dans la bouche.
Que je mets à la dernière minute, comme ça, émietté, parce que ça fait une sauce formidable. Et c'est presque, en fait, ce curry, je le sers avec du gratin de macaroni.
Ah, joli!
Mais le gratin de macaroni, ça ne se réchauffe pas. Donc,
Mais c'est vrai ce que vous dites, en le mangeant justement,
c'est une sauce.
J'ai été interpellé parce que je me disais, c'est un curry, mais la viande, c'est une viande hachée, on dirait un peu... La texture du hachois basque.
L'hachois de veau.
Qui est fait un peu de la même façon.
Oui, je ne connais pas.
Et c'est vrai que c'est très agréable parce qu'on a une rondeur et surtout, on a une saveur qui est globale. La viande a vraiment épousé toutes les saveurs.
Oui. C'est harmonieux.
C'est harmonieux.
Voilà, quand on a un morceau de poulet ou un dé de poulet ou un dé d'agneau... C'est pas du tout la même chose en bouche, en tout cas.
Mais la preuve que vous aimez jouer avec la nourriture, c'est le cas de le dire, parce que vous mixez les influences. Dans votre livre, le curry, il est au poulet. Et là, vous êtes venu nous voir avec cette recette que vous avez déjà modifiée avec de l'agneau.
Quand un livre sort, il est déjà périmé pour moi.
Laurent, on ne parle pas du riz. Mais moi, je le trouve
délicieux.
Comment vous aimez mon riz? C'est ma grande fierté.
Mais je trouve tellement équilibré.
Ça, c'est mon riz debout. Il s'appelle le riz debout.
Alors, comment vous le faites?
Alors, c'est du riz rond de Camargue. Qu'on cuit dans beaucoup d'eau, comme des pâtes, avec du sel, et on les cuit 10 minutes puis on les goûte immédiatement et on le refroidit totalement sous l'eau froide. On laisse bien égoutter. Puis, dans sa casserole ou son poêlon ou ce qu'on veut, on fait fondre du beurre. On le remet dedans, surtout sans l'écraser.
Oui, parce qu'il est bien
avec
égrainé.
Avec une fourchette,
ouais.
Voilà.
Vous l'égrainez ? Moi,
égrainé, on couvre et on laisse à peu près une vingtaine de minutes. Et là, c'est la vapeur du beurre qui le chauffe.
Qui finit sa cuisson. C'est magnifique. On retrouvera la recette sur europe1.fr.